C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes vendredi 18 mars. Bonne journée. Bienvenue au 98.5 avec, disons, une journée printanière comme celle d'hier. Ça stimule énormément, ça met de la bonne humeur, mais surtout aujourd'hui, ça continue avec du ciel, enfin un ciel généralement ensoleillé. Beaucoup de soleil, donc 11 degrés. La pluie qui va commencer très tard, en fin de journée, durant la soirée. Et disons que demain samedi, ben on prévoit pas mal de pluie, là, 20 mm, température un peu plus régulière, 7 degrés. Et encore dimanche, c'est de la pluie avec des averses et 7 degrés. Regardons ce qui se passe en Ukraine, jour 23 de la guerre. Et je pense que la phrase qui résume bien, c'est de dire qu'il y a de plus en plus de bombes, qu'il y a de plus en plus de victimes chez les civils, que la résistance quand même est impressionnante de la part des Ukrainiens et qu'il y a des endroits maintenant qui avaient été épargnés, qui commencent à être touchés. Je pense à ces missiles qui ont frappé Lviv. Il y a aussi ces combats qui se déroulent encore à Mariupol. On va les retrouver dans l'ouest du pays. Tatiana Ogarkova, qui est journaliste à qui on parle tous les jours pour avoir les dernières nouvelles. Tatiana, bonjour.
Bonjour.
On va parler un peu de votre vie personnelle tantôt. Votre mari est maintenant de retour, c'est son anniversaire. Mais d'abord, qu'est-ce que vous avez comme information pour nous, entre autres, sur les bombardements qui se sont déroulés là près de l'aéroport de Lviv?
Exactement. Voilà, cette nuit, à peu près à 8h du matin, on a reçu, donc on a eu aussi l'alerte aérienne. Et tout de suite, quand il y a des alertes, on se précipite aux actualités pour savoir où est-ce que ça frappait. Et donc, on a appris que, malheureusement, à côté de Lviv, dans la direction de l'aéroport, mais pas vraiment l'aéroport, mais l'usine à côté a été touchée. Donc, c'est la deuxième fois que les frappes russes touchent aux alentours de Lviv. Lviv, c'est une ville à l'extrémité de l'ouest de l'Ukraine. Ça veut dire qu'elle est très proche de la Pologne, en fait. Donc, l'armée russe se rapproche, on va dire, depuis de l'OTAN, n'est-ce pas? C'est un geste démonstratif. Il a visé l'objectif militaire cette fois-ci. Donc, et bien sûr, ça a fait énormément de panique, puisqu'il faut savoir que Lviv, c'est une destination préférée de déplacer interne, c'est-à-dire les Ukrainiens se déplacent beaucoup à Lviv. C'est une ville très belle. C'est une ville à côté de Pologne pour, au cas de besoin, de partir en Pologne. Donc, il y a vraiment énormément de gens qui ont fui la guerre et qui reçoivent la nuit les frappes. Donc, ça fait le tremblement de terre, ça fait les détonations. Donc, je peux imaginer très facilement l'état d'esprit des gens qui ont fui la guerre et qui se retrouvent aujourd'hui à Lviv et qui apprennent que les Russes sont capables de les attendre même à Lviv, vous voyez.
Parlez-moi maintenant de la capitale, Kiev. Encore là, il y a un quartier qui a été touché. On parle d'au moins une personne qui a perdu la vie.
Oui, cette nuit, il y avait malheureusement, il y avait un missile qui était au-dessus de Kiev. Donc la défense aérienne ukrainienne a bien fonctionné, ils ont réussi à abattre le missile, mais les parties sont tombées une fois de plus sur le quartier résidentiel, le quartier que je connais très bien, le quartier où habitent mes amis, le quartier où se trouve l'académie Moïla, où je suis enseignante, entre autres. Donc ça fait vraiment mal au cœur. Un bâtiment de 5 étages a été touché, quelques étages, donc ça fait un mort, plusieurs blessés et plus de 90 évacués. Donc il y avait des gens dans le bâtiment. On a vu des témoignages, les gens dormaient dans les couloirs, dans les salles du banc, ça leur a sauvé la vie. Donc ils ont pu sortir dans la rue, mais justement voilà, le bâtiment n'y est plus. Voilà.
Maintenant, je veux vous entendre sur la situation à Mariupol. On en a parlé hier, évidemment. Ce théâtre qui a été ciblé. Est-ce que vous avez des nouvelles de vos amis, de vos proches qui étaient là-bas? Puis comment ça se passe dans la ville, oui?
Oui, donc j'ai plus de nouvelles. Donc je connais une journaliste qui est là. Malheureusement, on n'a pas de nouvelles d'elle. On sait que dans la matinée hier, il y avait des évacuations qui avaient commencé, mais dans les heures qui ont suivi, il y avait l'armée russe avait continué à tirer sur les agents de SBU, de service de sécurité, qui étaient en train de sauver les gens qui étaient dans les souterrains. Donc l'opération se terminait. Il y avait quelques centaines qui ont sorti. On a reçu un témoignage d'une femme En tout cas, elle qui était dans les souterrains, elle affirme qu'à peu près 800 de personnes étaient présentes sur place. Donc, on peut présumer que c'est pas tout le monde pour l'instant qui est évacué. Donc, il en reste encore des gens vivants à l'intérieur. Mais après, on est sans nouvelles. On sait plus vraiment est-ce que tout le monde est sorti ou pas. Combien de morts, combien de blessés, notamment parmi ceux qui ont été dans le théâtre et pas dans les souterrains. Pas de nouvelles. On sait que Mariupol, c'est un enfer. On commence à recevoir des témoignages des gens qui ont rescapé la ville. Ils sont entre 20 000 et 30 000 de ceux qui sont partis avec leur voiture privée. On voit leur visage dans les villes libres de l'Ukraine. Ils arrivent en leur propre voiture. Il faut savoir que la ville est carrément détruite. Entre 80-90% des immeubles sont détruits. Beaucoup de voitures. Mais ceux qui ont de la chance, qui ont leur voiture et qui partent, donc ils commencent à parler. On voit l'état d'esprit. C'est infernal. Les gens pleurent. Ils tremblent. Ils ont vécu pendant 2 semaines au minimum dans les souterrains, bombardés à chaque heure. Ce sont des gens qui ont tout perdu. Donc, il faut penser dès aujourd'hui à des fonds, à un mécanisme très efficace de l'aide, parce que ce sont des gens qui sont partis justement sans rien du tout, même des bagages. Ils ne pouvaient pas faire des valises, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu souvent les membres de leur famille. Ce sont des gens traumatisés à l'extrême, puisque ce sont les survivants de l'enfer, en fait. Donc, on espère que ce sera possible de libérer. Il faut savoir qu'à Mariupol, il y a encore au minimum 300 000 habitants qui sont massacrés à toute heure. On espère qu'une partie, ou la plus large partie possible, pourra partir. On ne sait pas comment, mais si c'est le cas, de toute manière, c'est toute une population à sauver après. Il faut les loger, il faut trouver les fonds pour les aider, parce qu'ils n'ont rien du tout. Ils ont juste ce stress annulant, en fait, derrière eux, les souvenirs de l'enfer.
En terminant, je le disais, sur un plan plus personnel, votre mari qui était demeuré, lui, à Kiev, est de retour. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et avec lui, vous allez alterner entre l'ouest du pays et la capitale.
C'est ça, exactement. Donc, c'est un peu malheureux que de dire que l'anniversaire se passe dans les conditions comme ça. Mais on comprend qu'on, nous, on a de la chance à chaque moment de cette guerre. Personnellement, on a eu de la chance. On était du côté de Kiev où ça n'a pas frappé. On a pu partir dans la ville à l'ouest, mais qui n'est pas bombardée comme Lviv. Aujourd'hui, on a fait des allers-retours en sécurité. Aujourd'hui, tous les membres de la famille sont en vie. Nos enfants sont en sécurité. On se contente de peu et on apprécie chaque minute quand on est en vie et quand on peut être utile aux autres.
Tétiane, encore une fois, soyez prudente, prenez soin de vous et de vos proches. Merci et on se retrouve lundi matin. C'était Tétiana Ogarkova, qui est journaliste, avec qui on travaille depuis le début de cette guerre et qui est au rendez-vous tous les jours. Maintenant, je vais vous faire entendre, puisqu'on parlait de la ville de Lviv qui a été touchée par ces bombardements, c'est à cet endroit que se trouve Fabrice de Pierrebourg. Il nous a envoyé un message audio un peu plus tôt ce matin. Je fais entendre, c'est pas un reportage, c'est vraiment une note de service qu'il nous a laissée. Et puis on va lui parler un peu plus tard aussi dans l'émission. On l'écoute.
Ben là, c'était à 6h30, donc hier, j'avais pas entendu la sirène. Mais il n'y avait pas eu de frappe. Ça, je suis descendu dans l'abri de l'immeuble où je loge. Puis quand l'alerte a été levée, ben, je suis allé sur le toit. Puis c'est là où j'ai vu encore la fumée, mais plutôt, elle était plus verticale. C'est 6 missiles qui ont été tirés depuis la mer Noire. Et il y en a 2 qui ont été interceptés, 4 qui sont tombés donc en périphérie de la ville.
Et ce que vous entendez, c'est l'enregistrement donc des sirènes qui résonnent quand un missile comme ça est tiré. Peut-être quelques notes qu'on peut ajouter. Il y aura un entretien aujourd'hui entre le président américain et le président chinois. Tout ça, bien sûr, pour faire le point au sujet de la guerre. On sait que les États-Unis menacent la Chine de représailles si la Chine décide de soutenir l'agression russe contre l'Ukraine. Et vous avez senti hier, ce l'était déjà, là, mais c'est un conflit de plus en plus personnalisé. Le président Biden, qui parle de crimes de guerre de la part de Poutine, de la part des Russes, parle de lui comme un dictateur et tous les qualificatifs sont utilisés, un thug en anglais. Bon, on a compris, une espèce de voyou, un bum. Alors, on est à ce niveau, je dirais, d'insulte. Et en même temps, il y a toujours des mesures économiques qui continuent de s'appliquer, mais plus ou moins, il y a encore bien des interrogations sur le sort de l'économie, en fait, des finances de certains oligarques. D'ailleurs, Ottawa qui consent une exemption concernant les sanctions prises contre Moscou. Radio-Canada qui rapporte ce matin que on a accordé donc une permission à une entreprise canadienne. C'est un chargement de 30 millions en produits pétroliers qui appartient à Suncor, qui était en suspens. Et on a décidé de permettre à la compagnie de récupérer la cargaison en question. Peut-être la conclusion qu'on peut donner ce matin, cette guerre est donc à sa quatrième semaine et on voit que les bombardements ne cessent pas. La ville de Mariupol est complètement détruite, comme nous l'a indiqué Tetiana. Mais les services de renseignement américains et britanniques, on peut lire ça ce matin dans le New York Times, disent que de façon générale, par contre, l'offensive russe semble au ralenti, que la Russie a écopé durement de la réponse de l'armée ukrainienne et du mouvement de résistance, donc des pertes quand même graves, des problèmes logistiques. Mais tout ça alors que le bilan ou le coût humanitaire continue de s'alourdir. Et ça m'amène à vous parler de la position canadienne. Là, le ministre des Migrations qui a annoncé que les réfugiés qui vont venir au Canada vont bénéficier pour une période de 3 ans, disons que d'une permission de rester ici. On vient d'assouplir les règles. Ils vont être pris en charge. Leurs enfants vont pouvoir aller à l'école. Donc, on va offrir à ces Ukrainiens et à leurs familles une certaine stabilité. Ça, c'est le ministre qui l'annonce. Justin Trudeau a ouvert la porte à analyser des avions puis des transporteurs canadiens qui sont prêts à le faire là, pour ramener rapidement ici, plutôt qu'au compte-gouttes, des réfugiés ukrainiens. Je veux bien tout ça, là, mais dans les faits, au-delà du discours, peu de choses avancent. Et je vous le dis, il y a des projets à Montréal qui sont en développement, qui sont un peu mis, pas sur la glace, mais qui vont pas, je dirais, prendre forme plus vite que ça, en raison de la longueur des procédures, la bureaucratie. Autrement dit, on a un gouvernement qui parle beaucoup, le cœur sur la main, mais qui, quand on descend ça dans la machine, le résultat se fait attendre. Alors, on verra vraiment là si au-delà des discours, le Canada est capable, disons, de livrer la matière première. Parlons de la COVID maintenant. On sait que plusieurs pays ont décidé, et le Dr Weiss l'avait mentionné, là, au sujet de la fameuse quatrième dose, qu'elle serait offerte aux gens qui sont les plus vulnérables, donc les gens plus âgés, des gens qui ont des problèmes de santé chronique. Et on pense qu'au Québec, par exemple, ben ça va commencer par les gens de 80 pour qui l'efficacité vaccinale va en diminuant. Tout ça alors qu'on se retrouve actuellement avec une nouvelle vague, avec un nouveau sous-variant du Omicron, le BA.2, qui serait extrêmement contagieux. Et il y en a quand même beaucoup de cas. Le nombre de décès au Québec demeure élevé, mais le nombre d'hospitalisations quand même est assez sous contrôle. Et je rappelle ce qu'a dit le ministre Christian Dubé, prévoit pas vraiment de problème avant la fin de l'été puis le début de l'automne, donc août, septembre, alors que là, ben on va retourner plus vers une vie à l'intérieur. Mais c'est sûr, quand vous regardez ce matin les derniers chiffres en Europe de l'Ouest, puis également la Chine, Hong Kong, le nombre de cas demeure extrêmement élevé. Et on pense que cette nouvelle vague qui arrive en Europe, c'est clair que le Canada, puis le Québec, puis les Américains ne seront pas épargnés, même le président Biden, qui demeure extrêmement préoccupé. Alors, on aura cette quatrième dose très clairement. Bon, deux dossiers rapides ce matin. Le REM, d'abord. Là, la pression est dans le camp de la ville de Montréal, de Valérie Plante. Parce que là, la Caisse de dépôt et de placement du Québec a dit que le projet est sur la glace tant qu'il n'y aura pas un accord clair de la ville de Montréal. Et je rappelle ce qu'a dit Mme Plante là-dessus depuis le début. Elle dit on a besoin de pousser le dossier. Il faut que ce soit un meilleur dossier. Il faut que la proposition de la Caisse soit bonifié. Et il y a quand même du travail à faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Si on résume, là, c'est un projet politique. Comme le REM, initialement, c'était le projet de Philippe Couillard, c'était le projet du Parti libéral. Le REM dans l'Est, c'est une commande de François Legault. La Caisse dit pas de problème, on va vous faire ça. Mais voici comment ça va marcher. Premier design, contesté, on retourne à la table à dessin. On arrive, il y a quelques jours à peine, avec une nouvelle proposition. Et là, autant François Legault que la caisse se tournent vers Valérie Plante en disant, ben, en veux-tu d'un REM ou t'en veux pas? Et elle dit, la question, c'est, je vais être impliqué là-dedans, là. Arrivez-moi pas avec les dessins tout faits. Je suis à la mairesse de la ville, je peux-tu me mettre un peu le nez dans les affaires? Donc, c'est un projet qui, de toute évidence, est quand même sur la glace. Puis là, la responsabilité directement vers la mairesse de Montréal, Valérie Plante. À suivre. Et aussi le dossier des tarifs d'Hydro-Québec. Moi, je pense que le gouvernement du Québec s'enlise. Là, la dernière rumeur de ce qu'on comprend, là, j'ai vu ça à TVA, M. Legault qui a indiqué que les chèques, en fait, les familles vont recevoir un chèque pour contrebalancer une hausse possible de 4 à 5 % puis peut-être même 6 % des tarifs de Hydro-Québec en 2023. Parce qu'on posait la question, c'est bien beau de nous dire que ça va être en bas de ça, mais quel est le mécanisme? Alors, la stratégie sera un chèque pour compenser la hausse générale du coût de la vie. Et on va annoncer ça dans le budget. Hâte de voir la suite des choses. Mais la méthode de calcul des tarifs d'Hydro-Québec demeure déficiente. Ça avait été dénoncé à l'époque. Moi, j'aime mieux, je le dis, là, voir Hydro-Québec devoir s'expliquer devant la régie, même si c'est pas parfait. L'obligation, année après année, de se présenter. Tu comprends? Puis, on n'est pas naïf, là. Le ministre des Finances appelle chez Hydro-Québec en disant « Tu dois me livrer 2 milliards de profits cette année, j'ai besoin de ça dans mon budget. Arrange-toi comme tu veux. » Puis là, tu fais ta demande, puis tu justifies, puis il faut que tu prévois des investissements futurs. Là, c'est pas ça, là. C'est le calcul automatique de l'inflation. Puis là, personne pensait un jour qu'on se retrouverait avec des hausses importantes comme celles qu'on voit actuellement.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
On se rend compte évidemment que les bombardements continuent. D'ailleurs, les attaques sont de plus en plus nombreuses et aussi, malheureusement, les victimes civiles sont de plus en plus touchées. On vous parlera dans quelques instants du centre-ville de Mariupol qui est vraiment le théâtre de violents affrontements. Une ville qui a été complètement saccagée. C'est probablement la ville la plus hypothéquée depuis le début de cette guerre en Ukraine. Mais tout de suite, on va aller à Lviv, où se trouve Fabrice de Pierrebourg, qui est une ville dans l'ouest de l'Ukraine. Fabrice était là hier matin quand il est arrivé, puis nous a décrit un peu l'environnement. Et Fabrice, qui, je vous le rappelle, est notre envoyé spécial avec l'actualité là-bas. Ben là, on peut dire que cette ville vient de se faire rattraper par la guerre. Il y a des missiles qui ont détruit un bâtiment dans le quartier de l'aéroport un peu plus tôt aujourd'hui, Fabrice.
Oui, c'est ça, Paul. Il était à peu près 6h10 lorsque les sirènes ont retenti dans toute la ville. Il y en a chaque nuit, on me dit, depuis le début de la guerre, mais jusqu'à présent, il s'était rien passé, c'est non fondé. Donc là, ça a sonné aussi sur les applications ukrainiennes qui sont faites spécialement pour les alertes. Donc moi, mon téléphone s'est bien sonné aussi. Je suis descendu dans l'abri de l'immeuble dans lequel je réside. Il y avait plusieurs familles qui étaient déjà là avec des enfants, certains dans leur voiture. Et même pas 20 minutes plus tard, Paul, j'en ai entendu clairement deux grosses explosions. Et puis très vite, on a su que c'était un bâtiment effectivement qui sert à l'entretien d'avions. On ne sait pas si c'est avion civil et militaire, mais en tout cas, c'est un bâtiment qui est dans le périmètre de l'aéroport, mais l'aéroport, il est collé sur la ville. Et c'était à peu près à 7 kilomètres de mon hôtel. Et quand je suis monté sur le toit après, j'ai vu vraiment une grosse fumée noire au-dessus de l'ouest de la ville. Et donc, ce que le maire a dit un peu plus tard, le maire de Lviv a dit, c'est que c'était 6 missiles de croisière qui ont été tirés par les Russes depuis la mer Noire, donc probablement ou d'un avion au-dessus de cet endroit-là ou d'un bateau, donc quand même à plusieurs, j'imagine, milliers de kilomètres. Et deux ont été interceptés par les défenses aériennes, mais il y en a quatre qui ont pu frapper ce bâtiment. Officiellement, il n'y aurait eu ni blessés ni morts, parce que les employés, tous les gens qui étaient là à ce moment-là, quand ils ont entendu l'alerte, évidemment, ont rejoint les abris. Mais j'ai pu parler, j'ai essayé de m'approcher. Tout le secteur, évidemment, était bouclé par les forces de sécurité, qui sont déjà très nombreuses. La plupart des endroits stratégiques sont fermés par des postes de garde avec des Ukrainiens ou de l'armée ou des Ukrainiens civils qui ont pris les armes. Et j'ai rencontré Une mère de famille avec ses deux enfants qui habite vraiment à 700 mètres de l'aéroport. On voyait le bâtiment civil, l'aérogare. Et elle me disait que les vitres ont vraiment tremblé, mais ce qui les a protégées du souffle, c'est qu'elle a un petit boisé en face d'elle et une petite, comme une déclivité, un vallon, et le souffle finalement n'a pas frappé leur immeuble. Mais elle me disait qu'il faut jamais ignorer les alertes, parce qu'elles vivent, Paul, comme ça sonne tout le temps. Les gens, moi j'ai rencontré beaucoup de gens, même dans mon immeuble, qui m'ont dit « Oh, on descend plus dans les abris, ouais, ça sonne tout le temps, on s'en fout un peu », mais elle me disait « C'est la preuve, ce qui est arrivé ce matin, qu'il faut jamais ignorer les alertes ». Et figurez-vous que tous les soirs, elle et son mari, ils couchent leurs deux jeunes enfants qui ont 2 et 9 ans, tout habillés. Pour être certains, ils se sont entraînés de descendre dans le stationnement, dans leur abri de fortune, en moins de 2 minutes. Donc pour elle, c'est vraiment important de le faire, mais elle veut pas déménager pour autant, même s'il est dans un périmètre sensible. Elle pense qu'il faut rester là, mais que la communauté internationale doit absolument faire une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine.
Maintenant, après une attaque comme celle-là, comment la vie reprend? Les gens retournent à leurs occupations. Comment ça se passe?
Ben oui, l'alerte a été levée, je dirais, assez rapidement. Ça fonctionne quand même assez bien. Moi, je suis sorti, je suis allé chercher un café. Puis la vie continuait dans le vide. Les gens allaient à leur travail. Il faut quand même dire qu'il y avait eu une alerte le dimanche dernier. Il y avait une base qui avait été frappé à 30 km de la ville. Il y avait eu environ officiellement 35 morts et près de 200 blessés, une base militaire. Mais là, on a l'impression que les gens, finalement, sont à la fois résignés, mais ils sont en colère. Ils sont en colère contre la Russie, ce que je disais. Ils sont contents que la communauté internationale envoie des armes, en particulier des missiles sol-air portables qui permettent de descendre des hélicoptères qui sont des menaces, ou frapper les chars, mais ils en voudraient plus. Puis pour eux, puis c'est partout, Paul. Même dans la ville de Lviv, il y a des pancartes, c'est marqué « Fermez l'espace aérien, mais fermez pas les yeux », quoi. J'ai vu ça à un moment donné. Donc, ils veulent vraiment, pour eux, la fin de la guerre, ça passe par l'exclusion aérienne, c'est-à-dire un mécanisme qui permette de vraiment, à la communauté internationale, de descendre les avions russes, de descendre les missiles. Tout ce qui vole, pour eux, devrait être abattu. Mais évidemment, on sait que personne dans la communauté internationale est prêt jusque-là pour le moment, quoi.
Merci, Fabrice. Fabrice de Pierrebourg qui nous parlait en direct de Lviv.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
On sait tous que le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine va devenir un méga chantier. C'est déjà commencé, mais on va entrer dans des phases, disons, encore plus importantes, comme par exemple ce qui est prévu en fin de semaine, avec la conséquence de rendre, pour les automobilistes, impossible la voie en direction de Montréal. Mais comme toujours, il y a des effets sur les autres ponts et sur l'ensemble des voies dans la grande région de Montréal. Puis à chaque fois, on dit très bien, faites des fermetures, faites des travaux, mais voulez-vous vous assurer que l'automobiliste peut quand même trouver une autre voie de passage? Je vais en parler avec Marc qui est en studio parce qu'on va faire le tour d'ailleurs de la fin de semaine. Et Philippe Sabourin qui est de la ville de Montréal. Monsieur Sabourin, bonjour.
Hey, bonjour, merci de m'avoir invité.
Marc, d'abord, peut-être parler de ce qui est prévu pour la fin de semaine.
Oui, ben c'est le tunnel La Fontaine, fermé direction Montréal à partir de la 132 jusqu'à la hauteur de la rue Sherbrooke. Ça commence ce soir minuit, c'est prévu jusqu'à 5h lundi, donc pour tout le week-end. Et le détour qui sera balisé va passer par la 132 Ouest et le pont Samuel de Champlain. Je trouvais ça un peu long, je me posais la question, mais pourquoi, habituellement, on envoie les gens à Jacques-Cartier, pourquoi on envoie les gens aussi loin? Si on prend le point de départ à la 132 au tunnel et qu'on veut se rendre, disons, à Notre-Dame, à la hauteur de la fontaine du côté de Montréal, c'est plus ou moins 30 km, plus ou moins une demi-heure. Pour un détour, c'est quand même beaucoup. Alors hier, je me suis posé la question, j'ai parlé à bien des gens et j'ai appris qu'il y a des travaux urgents qui vont être faits à la sortie du pont Jacques-Cartier et c'est la raison pour laquelle le ministère a choisi d'envoyer tout le monde au pont Samuel de Champlain. Les gens qui vont circuler 132 Ouest, la sortie pour le pont Jacques-Cartier fermée complètement.
OK, monsieur Sabourin, quand on décide ça là, à mobilité Montréal où les gens sont supposés se parler, quelqu'un de la ville qui leur a dit « Écoutez, on a des travaux d'urgence, on n'a pas le choix. » Comment ça marche? Pourquoi il faut qu'on brasse les pommiers pour obtenir une couple de réponses?
Oui, bien, le portrait qu'il voudrait, ce Marc, là, c'est tout à fait exact. Je rajouterais que le pont Victoria, il y a seulement une voie en fin de semaine. Oui. Puis cette voie-là, on va l'avoir en matinée là, jusqu'à 1h30 l'après-midi. Après ça, on n'aura pas d'autre choix là, de s'en aller vers Champlain. ou le pont Jacques-Cartier. Mais c'est pas ça votre question. J'en suis. J'y
arrive. Mais attendez juste parce que Marc nous précise.
Il y a un changement pour Victoria. La décision qui a été prise, et d'ailleurs je considère que c'est la bonne, on va garder Victoria la travée vers Montréal pour toute la fin de semaine à compter de samedi 5h jusqu'à même lundi 13h30. Donc il y a eu un changement, une sage décision qui a été prise.
Oui, bravo. Mobilité Montréal, là, son objectif, sa mission, c'est d'atténuer la congestion causée par des chantiers puis des projets de transport collectif. Dans le cas de la rue Notre-Dame, l'opération qu'on doit faire, c'est pas un chantier, c'est une réparation d'urgence. Et oui, ils sont avisés, nos partenaires, on est une vingtaine en table, ils sont avisés depuis 2 semaines déjà qu'on a cette intervention-là à faire. On devait la faire le week-end dernier. Si vous vous souvenez bien, on annonçait une tempête, hein, une tempête d'une vingtaine de centimètres. Et pour cette raison-là, on a dû remettre à ce week-end l'intervention d'urgence qu'on a à faire.
Ça, je comprends ça, M. Sabourin. Là, j'ai pas de trouble. Là, t'sais que... Mais là, vous me dites là en même temps que ça fait 2 semaines qu'ils le savent. Puis là, ils viennent de décider de rouvrir Victoria en direction de Montréal.
Mmh. Oui. Ben,
c'est pour ça, comprenez-vous, c'est pour ça que je ne crois pas bien à la patente de Mobilité Montréal. Tu sais... Il me semble que c'est comme un vœu pieux. Tout du monde de bonnes intentions, mais dans les faits, ça se parle pas trop. Puis dans le fond, ils font leurs affaires chacun de leur côté.
Parce que dans le fond, la job de Mobilité Montréal, c'est de se parler puis de se coordonner. Et c'est de s'organiser pour que les gens puissent circuler. Et quand on arrive avec une situation comme ça, surtout si c'était prévisible, je me demande vraiment pourquoi on n'a pas agi en amont de la situation.
C'est sûr que, tu sais, il y a planifié... mais il y a aussi les travaux d'urgence. L'important, c'est que nos partenaires se parlent, qu'ils trouvent des solutions quand on a des pépins qui arrivent. Puis, tu sais, on peut pas prévoir l'imprévisible. Tout le monde s'entend là-dessus.
Non, mais attendez, vous m'avez dit qu'il savait depuis 2 semaines.
Oui. Je vais vous parler de ce qu'on a actuellement comme défi sur Notre-Dame. Juste devant le rond-point qu'on appelle Folhomme, là, c'est un point entre Delormier et Folhomme. En fin de semaine, il faut intervenir là parce que en fin de semaine du 4 mars, on a eu une fuite d'eau. La fuite, c'est sur une conduite de 10 pouces. 1926, là, à 96 ans, la conduite de fond.
Et mais M. Sabourin, vous pouvez me faire la liste de toutes les vieilles conduites d'eau de Montréal. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas vrai. Je suis en train de vous dire que dans le cas qui nous intéresse, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pas moi qui l'invente, c'est vous qui me le dites. C'est connu depuis 2 semaines. Mon point, c'est pourquoi il faut attendre à la dernière minute pour tenir compte, je parle pas de vous, là, que le pont Victoria décide de changer sa stratégie pour la fin de semaine, que les gens seront pas obligés d'aller virer au pont Champlain pour revenir après vers l'Est. C'est juste ça, mon point. Je sais que ça, les tuyaux peuvent briser. Je le sais qu'il y a des travaux à faire. Je suis très conscient de ça. Puis quand il y a des bons coups, comme la présence de policiers, par exemple, pour permettre aux gens d'aller plus facilement, on le dit. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que la mobilité Montréal, pour moi, c'est l'immobilité.
Je comprends qu'il y a des choix difficiles, des arbitrages qu'ils ont à faire, l'équipe Mobilité Montréal, les 20 partenaires se concertent. Marc nous l'a annoncé, ils ont renversé la décision pour le pont Victoria, et c'est tant mieux. Nous autres, on a comme préoccupation de maintenir une mobilité malgré les urgences, mais il y a une autre préoccupation qu'on a aussi. Vous savez, ces travaux-là, ils se déroulent dans un milieu de vie. Il y a des gens qui habitent, des familles qui habitent dans Ville-Marie. Et ce qu'on veut éviter également, c'est qu'on se retrouve avec une circulation dense dans des rues locales. Alors, c'est important qu'on continue quand même ces discussions-là pour trouver des solutions qui, des fois, vont pas nécessairement améliorer la congestion, mais que sur le niveau de la qualité de vie, ben qu'on va on va pas en rajouter une situation déjà difficile. Pour ça qui est important pour l'automobiliste, c'est qu'ils comprennent que la sortie centre-ville, quand il va sortir du pont Jacques-Cartier, il pourra pas aller vers Delormier Sud. Ils vont devoir aller en direction nord vers Delormier, direction nord jusqu'à Sherbrooke.
Parce que le pont est accessible par Tachereau de la rive sud vers Montréal, mais quand vous arrivez à la sortie, c'est ça, c'est Delormier Nord, pas d'autre choix, pas de possibilité vers le sud. Mais si c'est si urgent, pourquoi on n'a pas agi avant, de nuit, je sais pas, mais pourquoi on a attendu cette fin de semaine alors que c'est déjà prévu qu'il y a des fermetures ailleurs?
Marc, tu m'aurais appelé dans la seconde si on avait fait ces travaux-là 2 semaines. Hein? On s'entend fermer 2 voies sur 3 en direction est sur Notre-Dame. C'est impossible de faire ça en semaine, Marc. Il faut le faire une fin de semaine. Fin de semaine dernière, on n'a pas pu. Il y avait la tempête de neige. Alors, il y a des impondérables et on doit être agile puis faire face à ça.
OK. Y a-tu des affaires qu'on devrait savoir ce matin, vous êtes dans Mobilité Montréal, là, qui seraient importantes pour les auditeurs, exemple pour la fin de semaine, puis mettons que pour les prochaines fins de semaine, y a-tu des affaires bien importantes qu'on devrait savoir?
Mais je peux pas parler au nom de Mobilité Montréal. Je représente, je suis porte-parole pour la ville de Montréal. On est un des 20 partenaires. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce week-end, venir à Montréal, ça va vous demander de planifier votre déplacement, de prévoir un temps, peut-être de doubler le temps de vos déplacements normaux. On le sait, en fin de semaine, là, c'est le défilé de la Saint-Patrick.
Oui.
Beaucoup de gens vont affiler au défilé. Ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas eu.
Mm-hmm.
On a hâte à cet événement-là. Mais peut-être la meilleure façon d'aller participer à l'événement puis d'en profiter, c'est d'y aller en transport en commun.
Il y a une autre question parce que vous l'avez un peu effleuré, c'est-à-dire les fameux déplacements dans des quartiers plutôt résidentiels ou des rues là, plutôt résidentielles.
Oui, oui.
Entre vous et moi, là, il y a un enjeu parce que quand on prend une application, puis je l'ai vécu, là, puis tu rentres, mettons, mon point de départ, puis je m'en vais sur la rive sud, pour éviter des bouchons, là, ils vont me faire passer dans plein de rues que je connais pas, là, des rues étroites où il y a que des gens qui vivent en appart ou en condo, puis que comme on est plusieurs sur la même application, c'est la queue leu-leu dans des rues vraiment résidentielles.
Ça fait partie de nos préoccupations, ça. Puis c'est pour ça qu'on a convenu. C'est pas parfait, là, c'est pas rose bonbon ce qui s'en vient en fin de semaine, mais ce qu'on a convenu, c'est de fermer la direction. La sortie centre-ville, là, rue Notre-Dame, elle va être fermée, puis c'est justement pour ça, pour éviter qu'on ait un afflux d'automobilistes dans des rues résidentielles où il y a une certaine quiétude pour des familles de centre-sud. Ça, on veut absolument l'éviter. Alors, on va vous obliger à prolonger votre chemin sur Deslauriers direction nord pour aller rejoindre Sherbrooke. Vous en allez vers l'est. Si vous allez vers le centre-ville, vous pourrez toujours tourner en Ontario. Puis oui, on a de la présence policière qui est prévue. Ils seront bien présents. Moi, je serai là également. On a toute l'équipe de monitorage. Puis il va falloir qu'on s'adapte. Si on a à s'adapter,
okay, une question d'un auditeur qui dit, pour ce qui est de l'accès au pont Jacques-Cartier, on comprend là, que ça va être de Lorimier vers le nord. Pourquoi empêcher ceux qui arrivent par la 132?
Ben, en fait, c'est sur la 132 direction ouest, la sortie 82 qui va être fermée à partir de ce soir jusqu'à lundi.
C'est ça.
OK, mais pourquoi je peux pas partir, puis que ça soit simple, pourquoi je peux pas prendre le pont Jacques-Cartier à partir de la 132 puis m'en aller vers Deslauriers-Nord?
Ben, je peux pas répondre malheureusement à cette question-là parce que c'est pas du ressort de la ville de Montréal. Mais ce que je peux vous dire là, c'est quand je vous dis que Notre-Dame il va avoir une fermeture, on s'entend que c'est une fermeture partielle.
Oh oui.
Il va rester une voie en direction est entre Iberville et Folhomme. Alors si vous avez à prendre Notre-Dame en fin de semaine puis que vous arrivez pas du pont Jacques-Cartier, ça sera possible puis ça devrait pas être le cauchemar.
OK, mais là, vous me répondez pas pareil. Là. Moi, je vous demande pourquoi je peux pas prendre la sortie 132, aller prendre le pont puis m'en aller vers le nord par de
la. Je vais te la donner, la réponse, Paul. C'est pour réduire le volume de circulation.
C'est ce que je pensais.
C'est ça.
OK, M. Sabourin, merci. Bonne fin de semaine à vous.
Merci.
Au revoir. Philippe Sabourin de la Ville de Montréal. C'est un exemple. Là.
Oui.
Mais
coordination, c'est le mot-clé. Si on se parle, si on se coordonne, ça peut fonctionner. Je comprends que des urgences, ça peut arriver. Et quand on dit ça va être accessible sur Notre-Dame, une voie pour circuler sur une artère aussi importante, c'est toujours pénible. Et M. Sabourin l'a mentionné, il y a un défilé en ville. On dit aux gens, venez voir le défilé au centre-ville sur Sainte-Catherine, à l'ouest du Square Phillips, un surplus d'achalandage là. Ça va être difficile, vraiment.
Non, mais c'est parce que là, oublie pas, là. D'abord, il y a de plus en plus de déplacements. On n'est pas en confinement, là. C'est comme deuxièmement, t'as un défilé, puis en fin de semaine, c'est de la pluie, mais quand même. Là,
quand même.
Prends une journée comme hier, là.
Oui.
Puis m'assois la fin de semaine.
Absolument.
Les gens vont vouloir. Puis bon, le message est assez clair. C'est pas une bonne idée de vous déplacer Montréal-Rive-Sud en fin de semaine.
Tout simplement, c'est comme oubliez ça, du moins en voiture. Et il y a d'autres travaux aussi là de moindre envergure. Mais même Samuel de Champlain, dimanche en direction sud, il y a des voies fermées. Je veux dire, je comprends la direction sud, les gens vont pouvoir sortir, mais à un moment donné, ça devient un casse-tête. On dit, planifiez vos déplacements, je veux bien, mais là, c'est un labyrinthe, c'est le parcours du combattant. Rendez-nous ça simple, rendez-nous ça clair, on va suivre les directions pour être capable de se rendre.
Parfait. Bonne fin de semaine.
Ouais, merci.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Parler de la guerre en Ukraine et des effets combinés à ce qu'on appelle les problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Alors, si vous avez commandé un véhicule, vous savez que les délais sont longs, rareté, comme on dit, les cours des concessionnaires auto sont vides. Et spécifiquement pour des constructeurs allemands, la guerre en Ukraine a un impact important direct. Benoît Charrette est avec nous. Bonjour, Benoît.
Salut, Paul.
Alors, ça veut dire qu'il y a des fabricants allemands qui ont des sous-traitants en Ukraine, là, ce qui vient complètement défaire là, la chaîne de production.
Effectivement. En fait, on fabrique surtout en Ukraine les fameuses couettes de fil pour les relais électriques dans les véhicules. Et là, il y a une usine qui fonctionne et on doit quand même leur lever notre chapeau parce que ces gens-là travaillent pas loin d'un abri anti-bombe parce qu'on pourrait être bombardé à tout moment. Le problème, c'est qu'on n'en produit évidemment pas assez parce que la majorité des usines sont fermées. Et là, ben ça, l'effet secondaire de ça, c'est que là, BMW, Volkswagen, Audi ont annoncé des fermetures d'usines en Europe. Des modèles comme la A3, la A4 qu'on vend ici chez nous, ben là, on n'en produit plus depuis 3 jours. On a arrêté une usine à Ingolstadt depuis lundi dernier. BMW, des usines allemandes sont fermées depuis une semaine et on va être fermé au moins jusqu'au 25 mars. On n'a pas donné de date après ça parce que là, évidemment, on suit le cours de la guerre et on voit qu'est-ce qu'on peut faire. En attendant, ben, on essaie de se tourner vers d'autres fournisseurs. Il y en a en Roumanie, il y en a en Hongrie, il y en a en Tunisie, il y en a au Maroc. On va même du côté du Mexique et de la Chine pour tenter de compenser. Mais là, évidemment, ces usines-là produisent déjà pour d'autres constructeurs, donc doivent ajouter ça à leur tâche de travail. Ça pourra prendre quelques semaines avant qu'on puisse s'ajuster.
Puis si on regarde de façon plus globale le portrait de l'industrie, là tu me parles de fabricants allemands, donc avec des sous-traitants ukrainiens, mais il y a la reprise des cas de COVID en Chine, par exemple, là, puis je voyais des constructeurs. Ouais. Puis là, on peut parler des iPhones, mais on peut parler des voitures aussi là, qui sont touchées.
On peut parler des voitures parce qu'on a aussi des fournisseurs en Chine. Puis il faut pas oublier le tremblement de terre au Japon parce que ça a arrêté des usines japonaises de Toyota, Honda et Mitsubishi, entre autres. Et il y a l'usine Renesis qui était passée au feu il y a 2 ans, qui a encore été dans la zone où on a eu le tremblement de terre et on est fermé temporairement parce qu'il y a eu des dommages à la nouvelle usine. Fait qu'on est arrêté du côté des puces électroniques parce que Renesis est un fabricant de puces. Et on a également des effets secondaires là à cause de la COVID, de la vague qu'il y a présentement en Chine, parce qu'il y a des fournisseurs de pièces qui envoient du matériel du côté des États-Unis. Et là, ben, on n'a pas ce matériel-là.
Quand tu regardes ça, là, je te demande pas de faire des prévisions astrologiques, là, mais quand même, on sait là, que ça rentre au compte-gouttes, que je le disais, les cours sont pratiquement vides. À quel moment tu penses qu'il y a une cadence qui peut revenir là, en termes de livraison de véhicules?
Écoute, on espérait avec, mettons, là, on enlève la guerre en Ukraine, puis on considère qu'on allait reprendre un certain rythme au niveau de la chaîne d'approvisionnement des puces. On prévoyait début 2023 qu'on allait reprendre une certaine normalité. Là, évidemment, puis il faut pas oublier, on est pratiquement là, en mode inflationniste. Là, ça aussi, ça aidera pas. Mais là, pour le moment, là, même les meilleurs prévisionnistes sont un petit peu embêtés, mais on voit pas vraiment grand-chose avant le milieu de 2023. Et ça, c'est dans l'expectative que la guerre finirait là, bientôt, genre dans une semaine ou deux. Parce que si ça se prolonge, là, il y a des usines qui vont fermer indéfiniment parce qu'on n'aura simplement plus assez de matériel du côté de l'Europe pour travailler. Alors là, on pourrait rallonger. Au moment où on se parle, S&P Global, là, qui est une compagnie américaine, prévoit qu'il va y avoir 2,5 millions de moins de véhicules dans le monde qui vont se fabriquer en 2022 et 2,5 millions en 2023. Donc, on a déjà ramené à la baisse la production mondiale pour les 2 prochaines années.
Merci, Benoît. Bonne journée.
Merci, Paul.
Au revoir.
Salut.
Benoît Charrette, qui est journaliste automobile, rédacteur en chef, l'annuel de l'automobile, puis également son émission ici à Cogeco. Très heureux moi-même d'avoir commandé un véhicule électrique, un modèle 2022. Fait que j'ai bien hâte de conduire le 2025. Tu sais, finalement, c'est à peu près ça qu'on peut se dire. Faut être patient.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Ah, c'est vendredi, chers amis. Oui, Fabien qui est encore là ce matin.
Ben
c'est
oui,
un plaisir incroyable de te retrouver à la table.
Très heureux d'être là, mon beau Paul. Fait du bien. Hein?
Fait du bien.
Ce soleil-là.
Oui, oui, oui.
Cette belle température-là, ça nous entre dans le corps. Vraiment, ça fait du bien. Encore 3-4 semaines avant que tu nous arrives armé de tes bermudas et de tes chemises avec des ananas.
Peut-être même la jupe.
Oui, oui, oui.
À la mode.
Summer Paul. Joueur de djembé devant l'éternel, roi du cocktail et du déhanchement subjectif. Ah, à ta retraite, je t'imagine, Paul, avouer ton amour pour les danses latines dans une autobiographie intitulée « Paul Arcand, tout est dans le bassin ».
Préface de Pierre-Yves Lexoui.
C'est bon, ça.
Sur la couverture, là, tu serais bien droit, éblouissant dans une chemise avec col et manches en frou-frou, un petit pantalon en lycra, très ajusté, le arcan bien moulé, comme on dit. Et tout ça nous informe que tu es de centre droit.
On dirait
Liberace. Après combien de semaines on doit faire des... Après 3 semaines.
Il y a une proximité qui s'est installée.
Les deux bras dans les airs, prêts à taper des mains sur ta chanson préférée des Gypsy Kings. Que viva la circoncision. Un, deux, tres. Ablation. Ablation. Il faut pas cacher notre côté festif, Paul. Et il faudrait garder en tête, l'équipe, là, que avant le congé d'été, chaque collègue pourrait donner sa recette de drink estival préférée. Elisabeth, toi, ça serait quoi?
Oh, un petit gin, probablement.
Un petit gin. Oui. Alain, toi, on sait que c'est le Varen on the beach.
La vodka.
La vodka, Catherine, toi?
Margarita.
Et ben Luc Ferrandez, lui, on sait que c'est le plateau libré, mais dernièrement, il est plus Moscow Mule. Et toujours dans les cocktails estivaux préférés, il y a Pierre-Yves McSween qui nous donnerait sûrement sa fameuse recette de verre d'eau. Alors, on va poursuivre avec une petite nouvelle qui est un peu moins festive, mais en même temps, ça a retenu mon attention, mais c'est pas une nouvelle qui est si nouvelle que ça. Vous le savez, l'éducation sexuelle à l'école, ça divise encore les États-Unis. Je parle de la loi, là, dans certains États qui interdit aux enseignants d'évoquer l'identité de genre, l'orientation sexuelle jusqu'à un certain âge si c'est fait d'une façon qui est jugée inappropriée. Et là, parfois, les Américains ont le inapproprié assez facile. On ne parle pas ici de partir en classe nature et essayer de trouver sous quelle roche se trouve l'avant-bras en robeur. Non. Pour certains, là, juste mentionner que l'homosexualité existe, c'est inapproprié. Ils ont peur que ça donne le goût. Hein? Comme si moi, je dis, c'est bon la margarita. Hein? J'adore la margarita. Il me semble que je boirais une margarita. Ben, peut-être que ça va donner l'idée à quelqu'un de boire une margarita ce soir. Mais si, disons, je fais référence... disons, appelons ça le membre masculin, hein, le décrivant comme proéminent et bien veiné. Ça me surprendrait que, tout à coup, plein de messieurs veulent s'en servir un, ce soir, avec une tranche de lime puis un petit parasol planté dans le bout. Hein? C'est sûr que quand on prend le temps de faire l'image dans sa tête, c'est spécial. Mais, tu sais, si je dis Bloody Caesar et organe masculin de reproduction dans la même phrase, là, si ce soir l'envie vous prend de la tremper dans le sel de céleri, vous êtes pas gay, vous êtes bizarre. Et en plus, que tout le monde sache que ça va pincer quand vous allez dérouler le rebord.
Pour gagner.
Et là, exactement. Et là, personne qu'on veut pas de photos de gens qui se la colorent verte pour la Saint-Patrick. Là, envoyez pas de ça. De toute façon, on n'envoie jamais de photos de ça. Parce que doit-on rappeler, Paul, qu'on a observé des comportements homosexuels chez plus de 1500 espèces animales. Et oui. Pas des affaires que c'est des escargots qui se rendent pas compte de ce qu'ils font. Non. Des bisons américain, mâle et femelle, deux bisons mâles qui décident, ça d'affaire à pas être d'un genre. Hein? On a aussi vu des dauphins. Oui, des dauphins qui s'adonnaient au plaisir de la chair entre conjoints de même sexe. Donc, si vous allez dans un tout inclus et que vous prenez une photo avec l'animal, si au moment de prendre la photo, le dauphin fait « Wouh! »
Un indice.
Puis que là, le DJ met une toune de Lady Gaga puis le dauphin sort de l'eau en disant « C'est ma toune! Bon, on salue bien sûr tous les mammifères, ça nous inclut, qui s'aiment librement. Mais là, encore là, dans l'histoire de la loi américaine, il y a la maman qui a son enfant est en questionnement. Est-ce que je suis un garçon? Est-ce que je suis une fille? Puis là, il y a des gens à l'école qui ont dit à l'enfant qu'elle pouvait aller dans la toilette des gars, ça se sentait mieux. Puis là, la madame était pas contente parce que, pour elle, l'ouverture à la transidentité, c'est inapproprié. Notons, cependant, là, que même si un jour vous voyez quelqu'un entrer dans une salle de bain, mettons MC, tu sortirais du studio bien pressé, les deux rotules qui claquent parce que...
faux, là, ouais.
Tu sais, si t'entres à la salle de bain des dames, on conclura pas que t'es dans une réflexion pour devenir MC Ginette. Et... si c'était le cas, mon ami, là, je te dis, je t'accueillerais. Non, je t'accueillerais. On va poursuivre. Je finis avec du costaud, Paul. Oui. Moment inapproprié la semaine dernière à la télé québécoise. Violence? Vulgarité? Me direz-vous? Non, bien pire. Alors qu'un souper presque parfait présentait la semaine vegan. Vous me dites, qu'est-ce qu'ils ont fait de si grave? Est-ce qu'ils ont égorgé un panais? Ont-ils trempé un brocoli dans l'eau bouillante sans d'abord le désensibiliser? Non. Bien pire, des termes choquants ont été prononcés. On a eu une recette de tartare de betterave. Je vais répéter. Tartare de betterave. Je m'excuse, mais de la betterave avec des échalotes et une petite mayo, c'est une salade de betterave. Ce qui peut être très bon, là, OK? Mais en même temps, est-ce que je suis réactionnaire? Est-ce que je suis trop attaché à l'identité de mes plats? Donc, je dois évoluer, Paul. Vive les crab cakes, pas de crabe. Le pétoncle de champignons. Mangez ce que vous voulez. Planter un petit parasol dedans si ça peut vous faire plaisir. Appelez ça comme vous voulez. Soyez heureux. Je m'en vais faire bouillir. C'est le temps des sucres. Bonne fête.
Merci. Bravo.
C'est 23.